France Inter. On vient d'entendre du Cataillac. Bonjour Pierrick Lefranc.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en création sonore et en anthropologie, associé au Centre Norbert Elias et directeur de la compagnie Ik et Nunk. Et vous vous êtes intéressé à ces chants de gorge appelés Cataillac en Inukit. Excusez-moi, Inukit.
Inuktitut.
Ouais, c'est pas facile à dire.
Je vous laisse faire la langue des Inuits pratiquée par les femmes des communautés inuites dans l'Arctique canadien. D'un rituel pour accompagner le départ des hommes à la chasse, le Cataillac est devenu un jeu dans lequel deux femmes inuites s'opposent et il ne prend fin ce jeu que lorsque l'une d'elles rit, bute sur un son ou simplement abandonne. Il a même été le premier élément culturel inscrit au patrimoine immatériel par le gouvernement du Québec en 2014. Pierrick Lefranc, comment est-ce que vous avez découvert le Cataillac?
Alors moi, faut déjà, on dit souvent le Cataillac.
Voilà, vous faites bien
oui,
de le dire.
C'est une petite subtilité, mais il y a plusieurs manières de l'appeler. Alors, moi, tout a commencé il y a 10 ans quand j'ai eu l'opportunité de travailler tout d'abord avec des chanteurs diphoniques mongols. Et ce qui m'a incité après, par la suite, à m'intéresser à d'autres techniques de chant de gorge du cercle circumpolaire, parce qu'il y en a,
on en retrouve plusieurs.
Oui, autour du cercle circumpolaire, il y a beaucoup de techniques de chant de gorge qui sont assez différentes d'ailleurs. Et donc, j'ai eu, par la suite, l'opportunité d'initier une création musicale avec Marie-Pascale Dubé, qui est une comédienne québécoise résidant en France, et qui a eu la chance d'apprendre le Cataillac auprès de chanteuses inuites au Canada. Donc moi, ce qui m'avait particulièrement intrigué dans cette pratique vocale, tout d'abord, c'était que, comme les anthropologues le disent, c'est une pratique vocale qui est située entre le cri et le chant. Et que le fait qu'elle soit située entre le cri et le chant, finalement, ça vient interroger notre conception de la musique, mais aussi notre idée de ce que c'est que de s'exprimer vocalement avec notre voix. Donc la question que je me suis posée à l'époque était de savoir comment moi, en tant que musicien et compositeur, je pouvais composer de la musique en prenant en compte les particularités de cette pratique vocale.
Et sur quoi elle repose justement cette pratique qui est ancestrale? Est-ce qu'elle est encore beaucoup pratiquée aujourd'hui?
Alors fondamentalement, le Cataillac, c'est un jeu qui repose essentiellement sur l'imitation des sons de l'environnement immédiat, dont les animaux, mais pas uniquement. Certains anthropologues ont avancé que le Cataillac serait un infralangage qui permettrait de communiquer avec l'invisible, mais de manière générale, les Inuits préfèrent le considérer comme un jeu et vraiment uniquement comme un jeu. Mais c'est un jeu qui peut avoir de multiples vertus, comme tous les jeux inuits d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux inuits, c'est le principal mode d'apprentissage et de socialisation et de transmission de connaissances. Et ça, c'est commun à toutes les cultures du cercle circumpolaire.
C'est-à-dire que pour apprendre, on joue.
Voilà, c'est ça. Et on apprend qu'en jouant, quasiment. Donc les vertus principales du Cataillac, c'est de jouer, d'imiter les sons de l'environnement, et ce qui permet de mettre en lien et de se rendre attentif à son environnement, justement par cette activité de mimologisme. Quoi.
Donc si j'ai bien compris aujourd'hui, ça c'est un jeu, le Cataillac, qui prend fin quand une compétitrice rit. Et donc du coup, je me demande, est-ce que c'est pas un peu le jeu te tiens, tu me tiens par la barbichette inuit? Genre je fais un son, tu fais un son, le premier qui rira aura perdu le jeu?
Ah oui, il y a des points communs, mais c'est très différent, car il y a pas que la dimension de compétition, il y a aussi une dimension de collaboration, parce que les deux chanteuses sont à la fois partenaires et adversaires. Il y a une dimension esthétique, parce que ça doit être plaisant à écouter pour la communauté qui participe aussi à l'activité. Et au travers de la sociabilisation, il y a aussi une autre dimension qui est la sociabilisation avec l'environnement, car en imitant, on est obligé de se mettre à la place de ce qu'on imite, et donc d'être en empathie avec aussi bien d'ailleurs les aides que les choses qu'on a autour de soi.
Ce que la barbichette ne contient pas vraiment.
Mais c'est vrai,
dans
c'est
le
vrai
jeu.
Que c'est là où peut-être j'ai été un peu fort dans mon
donc, mais la comparaison est souvent faite.
Mais il y a un véritable rôle social donc de ce cri.
Voilà, c'est ça.
Mélina Robert-Michon, Pierrick Lefranc parle du cri de ces communautés inuites comme un lien perdu entre humains et non-humains. Et comme les sportifs de nombreuses disciplines, on peut vous entendre crier lorsque vous lancez un disque. Est-ce que c'est un mouvement conscient qui soutient votre geste ou est-ce que c'est votre part animale qui s'exprime quand vous criez, Mélina ?
Non, je pense que c'est la part animale. C'est pas du tout quelque chose de contrôlé. Et c'est vrai que même parfois quand je me vois ou je m'entends, pour le coup, j'ai pas l'impression que c'est moi qui fait ça.
Sort ce
donc,
son,
voilà, c'est vraiment quelque chose de pas contrôlé et qui une sorte de libération, je sais pas comment.
Vous avez déjà essayé ça, sans crier?
Mais ça arrive que je lance sans crier, donc c'est vraiment quelque chose qui sort ou qui sort pas. Il n'y a pas vraiment de contrôle dessus. Mais généralement, quand c'est un bon jet où il y a vraiment la tension, ou c'est rare qu'il y ait un très bon jet qui aille loin sans qu'il y ait le cri.
C'est tout votre corps qui lance
exactement
ce disque.
Au karaté, par exemple, il y a le kiai qui est vraiment un cri de combat. Est-ce qu'il y a aussi une dimension performative? Est-ce que vous êtes impressionnée parfois par le cri d'une rivale, Mélina Robert-Michon? Ça peut faire peur, ça intimide?
Non, je pense pas qu'il y ait, que ce soit impressionnant, parce que c'est pas en face de nous, c'est pas un combat, donc je pense que c'est encore différent. Mais c'est vrai que des fois, ça peut surprendre quand on s'y attend pas. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de... Ça crée pas de la peur. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas pour ça que je fais. Mais...
C'est pas comme les Néo-Zélandais.
C'est
pas le haka, voilà. Cette dimension, on la retrouve chez les Inuits, Pierrick Lefranc?
Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour nous, la manière dont on le reçoit en tant qu'occidental, on entend ce chant, on y voit quelque chose d'animal, et ça évoque quelque chose qui nous dérange, nous impressionne, et peut nous mettre mal à l'aise. Après, c'est difficile de dire si originellement il y avait cette forme de défi à travers les cris entre les deux chanteuses qui pratiquaient le katadja.
Vous, parfois, vous faites, quand vous faites des performances, Pierrick Lefranc, vous faites crier les gens, ils arrivent à s'approprier ce cri?
Alors, nous, ce qu'on s'amuse à faire dans nos performances, c'est à reprendre des règles du katadjak et à les appliquer à notre manière, mais pas forcément à refaire le katadjak, mais ça suffit à se rendre compte qu'il y a toute une part déjà de notre registre phonatoire et vocal qu'on n'utilise pas, et justement de l'effet euphorisant qu'il y a dans le cri, de ce que ça peut produire, de crier, hein, quand on est avec d'autres personnes, quoi.
Et tous les deux, vous pensez quoi des scream therapy? Vous connaissez, c'est une méthode islandaise qui est censée éliminer le stress en quelques minutes par le cri. Mélina, pour commencer, peut-être.
Ouais, je pense que crier de temps en temps, ça fait du bien quand même. C'est vrai que ça permet d'enlever la tension, de sortir un peu tout ce que justement on n'arrive pas à évacuer. Donc ça m'étonne pas.
Et puis Eric?
Oui, il y a beaucoup de chercheurs qui ont considéré que le katadjak avait cette fonction, effectivement, et de toute façon, de fait, pratiquer le katadjak a indéniablement un effet euphorisant du fait de la manière de respirer qu'il implique, quoi.
Et thérapeutique.
Alors oui, il y en a qui vont jusque-là, jusqu'à dire que ça pourrait avoir des effets thérapeutiques. Mais ça, c'est tout.
Ça reste à prouver.
C'est ça, les avis sont... divergent.
Merci beaucoup Pierrick Lefranc d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes donc chercheur en création sonore et en anthropologie. J'espère que vous avez donné envie à plein de gens d'aller découvrir le katadjak, et vous êtes aussi directeur artistique de la compagnie Ink et Nunk.